je retrouve mon invité pour la matinale. Il est directeur du musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon. Joseph Beltemps, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez donc été chercheur d'ailleurs ici pendant quelques années en sciences politiques à Triangle, mais vous dirigez maintenant ce musée, et peut-être pour les personnes ici qui n'auraient jamais eu la chance d'y faire un tour, ce musée, donc l'imprimerie et de la communication graphique, c'est quoi ? Tout simplement.
Tout simplement, très bien. Je suis ravi d'être avec vous. C'est un musée qui a la lourde tâche du « en même temps ». Comme le nom l'indique, il était effroyablement long. C'est un musée qui doit à la fois raconter l'histoire de l'imprimerie de l'Asie à la machine à tatouer, à l'imprimante 3D d'aujourd'hui, et qui en même temps, du coup, doit travailler le monde graphique qui nous entoure, essayer de montrer la création contemporaine, de montrer le travail des artistes, et aussi d'essayer de travailler la relation, une relation écologique aux images, et au texte et aux images.
Avec donc un certain nombre de un fonds de collection particulièrement riche de toutes les époques.
Oui, c'est un musée qui est assez jeune, donc il a 50 ans, donc on n'est même pas arrivé encore au bout de ce fonds-là, à l'inventorier, donc c'est sans fin, c'est comme tous les musées, je crois qu'on est un peu tous dans cette espèce de poursuite de la collection parfaite, et il y a environ 30 000 documents au musée, oui.
Le musée qui commence donc cette semaine, je crois, une exposition consacrée à l'Odyssée des livres sauvés. Cette exposition qui parle donc des sauvetages de livres, qui nous présente un certain nombre de livres, justement pas dans une perspective historique, mais en se focalisant sur l'histoire singulière de certains livres.
Oui, alors c'est vrai qu'au départ, ça pose la question de comment on expose un livre. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui pourrait prendre déjà en soi des tonnes de projets. On expose, nous, beaucoup de livres rares et précieux. On est un des seuls musées à le faire toute l'année. Donc là, la question, c'était plutôt de se dire comment on expose la relation au livre. Donc déjà, c'était ça qu'on voulait un peu encapsuler dans l'exposition. Comment on se relie à l'objet livre. Et on était aussi traversé comme la société par la question du porté-secours. Donc on a lié un petit peu ces deux envies-là, parler donc comment on sauve des livres, qui sauve des livres aujourd'hui, et à un peu de tout temps, et essayer de créer comme ça une sorte de panorama, pas historique. Hein. Du coup, l'idée, c'était vraiment de créer un tableau d'ensemble assez fort, regroupant des livres qu'on ne connaît pas ou des destins qu'on a peu vus et qu'on essaye de mettre en avant.
Une façon peut-être aussi, après deux expositions, je crois, consacrées plus justement à la communication graphique, de revenir à l'objet livre lui-même.
Oui, même si, comme on l'a travaillé récemment sur le Secours populaire et l'imagerie du Secours populaire, on ne reste pas très loin sur cet aspect de vulnérabilité globalement. Donc oui, c'est ça, redonner la parole au livre.
Alors on va peut-être se plonger justement un petit peu dans le programme de cette exposition, une exposition qui est organisée sur quatre axes. Comment ils ont été choisis, ces axes ?
On a travaillé tout le temps, on en reparlera, avec un livre qui a été coédité en même temps de l'exposition, donc on a pensé aussi l'exposition comme une sorte de grand un chapitrage dans lequel on démarre par des livres qui ont été frappés, donc un peu le côté catastrophe naturelle, des livres sauvés d'incendies, de noyades, récupérés dans des poubelles, enfin tout cet aspect un petit peu de vol, le livre qu'on retrouve dans un déménagement, donc le livre quelque part qui est ramené à la vie ou qu'on retrouve après une sorte d'aléa naturel ou en tout cas qui n'est pas dirigé directement contre lui. Ensuite, il y a l'aspect censure, plutôt, évidemment. Donc là, on s'est plutôt montré des documents qu'on voit peu, comme un ouvrage de la revue Recherche de 73 qui était saisi sur les homosexualités, qui était saisi au moment de sa publication, comme les livres de l'Irlandaise Edna O'Brien qui étaient brûlés en place publique, enfin des livres qu'on connaît peu. Ensuite, on décline comme ça de la censure à l'exil, aux livres spoliés, et puis aux bibliothèques dispersées. On finit par des ouvrages plus talismans, les ouvrages qu'on sauve, nous, donc l'aspect plus Île déserte, l'aspect liste favorite à lire avant de mourir, et des livres qui sauvent aussi, comme les livres de Bret Easton Ellis, par exemple, qui est quelqu'un qui récupère énormément d'autres livres à l'intérieur de ses livres. Donc voilà, essayer de voir comment le livre sauve son environnement aussi.
Alors ce premier axe que vous appelez levée de rideau, je crois, donc est intitulé Foudre, justement. Donc vous dites les livres qui ont été frappés par une catastrophe extérieure, et vous essayez d'éviter les grandes catastrophes de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez fait votre choix de ces livres frappés ?
Alors on n'a pas essayé d'éviter la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit qu'il y avait déjà beaucoup de choses, et finalement c'est évidemment revenu un peu comme un boomerang, parce que c'est une vraie matrice au niveau du sauvetage des livres, mais on a parlé de Sarajevo notamment, on a des personnes qui sauvent des livres pendant le conflit de Sarajevo, on parle de Syrie avec les bibliothèques de Homs et d'Araya, on parle voilà, en tout cas d'autres conflits, on parle évidemment de conflits en Irak avec le père Najib qui sauve les livres de Daesh en 2014 à Mossoul. Donc on a comme ça essayé d'avoir d'autres repères. Et puis après, sur le livre frappé, bêtement, il y a l'accident, il y a des choses comme, par exemple, il y a les fleurs du mal illustrées par Matisse, qui connaît un vrai accident, les dessins de Matisse sèchent dans l'atelier. Et du coup, on ne peut pas imprimer le livre, et ça oblige du coup à les prendre en photo et à imprimer les dessins à partir de leur négatif. Donc on crée presque une technique imprimée à partir de cet ouvrage-là, en 1947, et on montre cet ouvrage qui est assez rare, un peu comme un accident industriel.
Le second axe, donc les livres mis à l'index, les livres censurés, alors il y en a eu beaucoup. Vous avez mentionné ce numéro de 1973 ou 14, donc une censure encore récente. Comment justement vous articulez ces différentes époques de la censure ?
C'est vraiment le tableau d'ensemble, encore une fois. Donc c'est se dire qu'il y a comme ça. On avait droit, nous, qu'à une cinquantaine de choix clairs, à la fois de personnes ou de destins, de sauveurs, sauveuses, ou de livres en eux-mêmes. Donc l'idée, c'était vraiment de regrouper un peu toutes les époques. Et puis aussi, on parle de l'anarchisme, on parle de la sexualité, on parle de la religion. Donc essayer d'avoir aussi, dans la censure, une vision assez large, puisqu'elle est très pratiquée aujourd'hui. Donc voilà, ne pas, on parle de la censure du Front National en 95 dans les bibliothèques françaises. Enfin, donc je dirais qu'on essaye d'articuler les livres du 9e, 10e siècle qui ont connu une sorte de censure constante jusqu'au 17e, et d'autre côté quelque chose de plus contemporain.
Et ce qui nous amène donc à la question de l'exil, le troisième tableau, les livres exilés, des livres qui voyagent du coup aussi.
Voilà, donc des bibliothèques dispersées. Assez classiquement, on parle de la bibliothèque de Walter Benjamin, qu'on connaît quand même peu, qui est tellement obsédé par ses livres, du coup, qu'il les envoie à ses amis quand ils voyagent, du coup, pour être sûr qu'ils soient bien gardés. Donc on a comme ça des caisses de 500 kilos de livres envoyés à Brecht pour les retenir pendant qu'il est lui-même exilé à Paris. Et on a comme ça ces bibliothèques dispersées. On a le manuscrit de Vie et Destin. Alors on ne l'a pas parce qu'évidemment il y a plein de livres qu'on n'a pas en fait. Donc la question c'est est-ce qu'on doit en parler ou pas ? Donc nous, en tant que musée, oui, on évoque. Donc on évoque, on a des photos, on a des témoignages, on a des dessins, on en parlera. Voilà, donc c'est le manuscrit de Vie et Destin qui est arrêté par le KGB. Donc c'est la première fois que la police d'État, du coup, arrête un manuscrit. Donc on a le manuscrit est arrêté physiquement et connaît plusieurs destins avant de passer en Suisse en les années 80 et d'être imprimé en Suisse.
Et enfin, alors une partie peut-être un petit peu à part, les livres talismans, là ce sont des livres sauvés, des livres que l'on sauve parce qu'ils nous sauvent quelque part. Ces livres du coup avec une relation beaucoup plus intime à une personne. Là le choix du coup a peut-être été encore plus difficile sur cet aspect-là.
Oui et non, parce que tout ça est affaire de rencontres aussi. Il se trouve qu'on a rencontré les éditions Actes Sud dès le début de ce projet. Et petit à petit, on a eu accès comme ça à aussi des auteurs un peu labellisés Actes Sud plus facilement. Donc ça fait que c'était une manière aussi d'échanger. Donc par exemple, quelqu'un comme Sirius Vett, qu'on a pu lui demander quels étaient ses livres favoris. Enfin, donc ce genre de choses. Donc on a aussi rencontré Kamel Daoud. Donc voilà, c'était une manière de rendre hommage un peu à ceux qu'on a croisés. On a aussi vu pas mal d'artistes qui travaillent sur ce sujet, notamment un photographe suisse qui s'appelle Gabriel Hill, qui fait des portraits de réfugiés avec des objets talismans. Donc certains avaient des livres, donc on expose des photos. Il y aura pas mal de photos du coup dans l'exposition aussi, pour avoir cette partie artistique-là.
Alors justement, venons-en à la scénographie de l'exposition, une exposition qui est présentée comme un arbre. Comment cette métaphore finalement s'incarne dans le musée ?
Alors on voit pas vraiment l'arbre, évidemment. Nous on est parti là-dessus parce que c'était une sorte de question de la monumentalité du livre. Donc la question c'est comment le livre est un monument, quelle est notre relation à ça. Donc on a comme ça des grandes stèles ou modules ou totems ou arbres, enfin voilà, etc. qui représentent du coup des destins particuliers. Et on a surtout demandé à un jeune illustrateur qu'on a découvert à cette occasion qui s'appelle Yann Damzin, qui vient de sortir sa première BD d'ailleurs, qui est dont les dessins sont formidables, qui sont très très orthodoxes dans leur manière d'exister dans l'espace. Vous verrez, c'est très, très étonnant, c'est très beau, très, très coloré. De créer des dessins, en fait, des personnes dont on n'avait pas les photographies, et de nous donner des dessins de la relation au livre. Donc il nous a créé comme ça 15 grands portraits qu'on met du coup sur ces totems, sur ces modules-là, et autour desquels les livres apparaissent. Donc c'est une expo sur les livres, dont l'idée n'était pas de voir les livres au début. On entre, on voit les dessins, on essaie de comprendre ce qui se passe, et autour, on a les livres. Donc c'était pour nous vraiment l'envie que le livre soit pas là tout de suite. On n'est pas... parce qu'on est musée de l'imprimerie, qu'on est fétichiste du livre, la question c'est plutôt de se dire d'abord d'être dans la relation et ensuite, et l'objet est beaucoup plus émouvant une fois qu'on connaît l'histoire.
Donc des photographies, des livres évidemment, des illustrations, et puis un catalogue, mais qui est bien plus qu'un catalogue. Vous nous parliez de la rencontre avec les éditions Actes Sud, on sait que c'est des éditions qui sont presque nées avec des livres retrouvés, les carnets de Nina Berberova. Comment Actes Sud a été associé pour donc la production de ce livre sur l'exposition et de l'exposition ?
Alors, au départ, c'était une rencontre autour des éditions de l'Imprimerie Nationale qui cherchaient des idées pour des nouvelles éditions à venir. Et c'est vrai que nous, on était un peu obsédés par ce thème-là, des livres sauvés. Donc quand on s'est rencontrés, on a tout de suite dit « Est-ce qu'on peut travailler ensemble là-dessus » Ça a tilté, je dirais, assez rapidement. On a cherché des écrivains pour nous, voilà, pour aider à créer un livre ensemble et pas faire simplement un catalogue d'expo. On a rencontré donc Raphaël Jérusalmi, qui est libraire d'anciens à Tel Aviv et écrivain, et aussi donc Kamel Daoud. Chacun a écrit un texte. Kamel Daoud a écrit un texte sur sa relation... comment dire, légèrement complexe entre le livre sacré et le livre érotique. Donc ça s'appelle « Comment coucher avec un livre ». Donc ça, c'était bien comme entrée. Ça sortait un petit peu de, voilà, de ce qu'on a l'habitude de voir sur l'histoire des textes et de la censure. Puis Raphaël Jérusalmi a raconté l'histoire d'une fable disparue, une fable d'Ésope, qu'on a retrouvée au musée. Donc voilà, donc c'était toutes ces histoires-là qui font que cet ouvrage, avec des photos, avec des destins racontés, change d'un ouvrage catalogue. Ça s'appelle « Bibliodyssée ».
Voilà, un certain nombre d'autres événements seront prévus, j'imagine, autour de l'exposition qui tisse, entre autres, un partenariat avec les Assises internationales du roman qui se tiendront cette année, comme chaque année d'ailleurs, au mois de mai.
C'est ça, voilà. Donc fin mai, on aura une belle table ronde sur le sujet des livres sauvés. Et on a la chance, du coup, d'avoir le père Michael Najib qui vient de Mossoul, donc qui lui-même a sauvé des manuscrits de Daesh. Environ, il a sauvé 800 manuscrits des mains de Daesh, vraiment tout seul avec son camion et les personnes qui étaient avec lui. Et on a aussi donc Delphine Minoui qui a réalisé un documentaire sur la bibliothèque de Daraya en Syrie. Donc c'est un documentaire qui est passé assez récemment, je crois que sur France 5. Et donc c'est l'occasion de les faire dialoguer ensemble et puis de parler de l'expo. Parce que c'est un sujet qui, voilà, une fois qu'on a passé le côté un peu obscur parfois des livres retrouvés, qui nous relie tous.
Alors on se donne donc rendez-vous au mois de mai pour cette table ronde. L'exposition, elle est au musée donc de l'imprimerie de la communication graphique jusqu'au mois de septembre. Et puis, on a déjà des perspectives sur la suite, sur l'exposition qui suivra donc, et qui prend la suite d'une série d'expositions que vous menez au musée, de la série « Attention Logo ».
Oui, bah ça c'est vrai que c'était un besoin pour nous de nous rapprocher de tous les publics via le sujet logo qui est assez large mais qui nous permet de parler de signalétique, de parler d'histoire des signes. Et du coup on aborde le sujet des Jeux Olympiques et des Jeux Méditerranéens cette année, après avoir fait le Secours Populaire l'année dernière. On connaît peu les Jeux Méditerranéens, c'est pourtant des Jeux Olympiques qui se déroulent tous les quatre, enfin des Jeux pour trois continents qui se déroulent tous les quatre ans, qui sont très beaux. C'est les trois anneaux olympiques qui sont plongés à moitié dans l'eau, c'est un logo assez magnifique créé à la fin des années 70. C'est un peu compliqué parce que c'est un graphiste croate qui l'a fait, qui est peu joignable, donc on s'écrit par lettre manuscrite depuis un an. J'espère que cette exposition aura lieu, mais c'est toujours assez étonnant, c'est vide d'expo.
Vous pourrez peut-être exposer les lettres manuscrites dans l'exposition. Ça sera donc au mois de septembre au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, et pour l'instant... L'exposition qui commence donc
vendredi,
c'est l'Odyssée des livres sauvés. On peut vous trouver dans le 2e arrondissement de Lyon,
c'est ça,
au métro Cordelier. Merci beaucoup Joseph Beltante pour avoir répondu à mes questions. Et c'est là-dessus qu'on va bien sûr conclure cette matinale de la journée de la radio. Vous écoutiez la matinale de la journée de la radio 2019 avec aujourd'hui Maë Burla, Juliette Meul, Marie Douniac, Mathilde Picard, Benoît Auclair, Arthur Kramer, Maxime Seguin, Titouan Joubert et Arthur Guérin-Turc. Nous avions la douce voix des vaches ossinants pour nous réveiller ce matin. Les entretiens réalisés et préparés ont été faits avec l'aide de Maë Burla et Flora Lecomte. On remercie bien sûr Flora Lecomte également et Colline Lafontaine pour leur assistance à la préparation de cette matinale. Et puis évidemment les irremplaçables régisseurs Maë Burla, Nelly Windisch et puis Félix Barancy qui est aux manettes depuis très très tôt ce matin. On vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une bonne journée. C'était une matinale coordonnée par Rémi Cerda.
La journée de la radio, c'est sur Transistor.
La journée de la radio, c'est sur Transistor, mardi 9 avril. Paysage de radio. De 6h du matin à 20h du soir, des tables rondes, des fictions, des jeux, une chasse au trésor. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche.
C'est le sud.
Je vous fais partager ce moment. J'écoute les oiseaux. Vous savez que bientôt on n'écoutera plus d'oiseaux, malheureusement.
En direct et en public, Stade Cantor.
Oh putain, tu fais super bien le chat.
11h, qu'y a-t-il dans le champ du micro? Première table ronde de la journée. Daniel Day et Mehdi Aoudig répondront à nos questions. Entre-temps, il y aura la clé des champs, un petit peu d'écologie bonne pioche autour du jeu de société. On continuera à 10h avec L'encre et la lumière, la première de votre nouvelle émission de cinéma sur Transistor. Mais tout de suite, place au sens social. C'est avec Sens. Rebonjour Arthur.
Rebonjour Rémi.